Complémentaire de l'histoire, l'archéologie des temps contemporains est un formidable outil d'investigation. Nous l'avons déjà dit, au travers d'une matérialité palpable, elle met en évidence des sujets qui, parfois, s'avèrent frappés d'amnésie. Pensons notamment aux violences de masse, celles de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, d'Argentine ou de Chypre, celles-là même qui se déroulent actuellement au cœur de l'Ukraine, occupée par les armées russes. Voici près de 10 ans, le magazine d'archéologie de France Culture évoquait les fouilles du camp d'extermination nazi de Sobibor en Pologne. Celle-ci était alors conduite par Isaac Gilead, archéologue israélien de l'université Ben Gurion de Beersheba. En parallèle, deux grands témoins étaient intervenus, un historien, Ivan Jablonka, et un archéologue, Boris Valentin. Aujourd'hui, nous ouvrons à nouveau ce sujet sur les pas d'une grande fouille qui se poursuit au cœur de la forêt de Pologne orientale avec Arnaud Soli, historien de formation, réalisateur et documentariste qui a réalisé un grand film témoignage Sheol, salué par la critique, dont Télérama, et qui vient d'être couronné par le Grand Prix du documentaire historique 2022 des Rendez-vous de l'histoire. Arnaud Soli, bonsoir.
Bonsoir.
Pour envisager cette archéologie, mon autre témoin est professeur à la Sorbonne et préhistorien. Boris Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Arnaud Soli, pourquoi entreprendre un film autour d'un sujet les plus effarants de l'histoire du XXe siècle ?
Je vais vous répondre par une question. Pourquoi ne pas l'entreprendre ? En général, quand on est porteur de ce genre de sujet aujourd'hui, la réponse est globalement, on a tout vu, on connaît déjà, on a déjà entendu, on a déjà vu, donc pourquoi encore ? Sous-entendu, on le fera pas. Plus sérieusement, je suis assez d'accord avec Imre Kertész quand il écrivait dans Culture de l'Holocauste qu'il y a quelque chose qu'on a oublié en Europe, ou peut-être qu'on veut pas voir, ou avec lequel on est plus confortable aujourd'hui, et que la Shoah reste un élément très structurant des identités européennes, des rapports sociaux, les silences qui sont liés, les oublis dans lesquels ça peut tomber sur les différents territoires. Aujourd'hui, on comprend que ça reste au cœur, et particulièrement dans les territoires orientaux de l'Europe, qu'on appelait autrefois la Mitteleuropa, l'Europe du centre. C'est aujourd'hui une Europe de la marge, mais on voit bien que les arguments mobilisés autour du nazisme, de la dénazification, de la qualification de génocide par chacun, ça nous laisse penser que cette histoire-là est toujours vivante.
Comment fait-on un film, Arnaud Soli, après celui, bien sûr, de Claude Lanzmann, Sobibor, 4 octobre 1943, 16h?
14 octobre. Évidemment, Claude Lanzmann a défini notre travail avec Shoah. Sobibor, c'est un bon exemple, parce que je trouve que c'est toute la démarche de Lanzmann de voir comment on peut réaccéder au passé dans le présent via la parole des témoins. Donc le récit sur Sobibor, il est à la fois beaucoup tourné à Majdanek, curieusement, un petit peu à Sobibor aussi, sur des lieux qui sont pas encore tout à fait connus. Il y a la gare, la rampe avec l'arrivée. Et puis, il y a le témoignage en ingé, comme ça, de ce survivant qui a participé à la révolte et qui est établi à ce moment-là encore en Israël. Donc, il faisait partie du dernier convoi de Minsk, avec ceux qui ont dirigé la révolte. Voilà, c'est ce qui nous laisse pour l'histoire. Nous, quand on a commencé à tourner Sheol, le dernier témoin, le dernier rescapé de Sobibor est mort. Au tout début du tournage, c'était Shimon Rosenfeld, qui était aussi un prisonnier de guerre juif ukrainien faisant partie de l'armée rouge, qui a été alors jusqu'à Berlin ensuite, puisqu'il a réintégré l'armée rouge en 43. Et en 45, il a écrit sur le Reichstag le nom de son village en Ukraine, Sobibor, Berlin. Voilà, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Donc nous, on vient après la parole des témoins, et en fait, le sujet du film, c'est plutôt comment le passé s'inscrit toujours dans le présent.
Alors cet événement, de cette révolte donc de Sobibor, c'est un moment absolument capital, c'est presque une exception, Boris Valentin.
Il y a eu d'autres révoltes, hein, à Birkenau aussi. Et là, c'est ce qui va sceller, à ma connaissance aussi, le destin archéologique de Caen, puisque les nazis vont détruire immédiatement le camp, comme ils ont essayé de le faire aussi par ailleurs dans d'autres cas. Mais là, ils vont détruire le camp, ils vont niveler, installer une ferme factice, je crois, à la place, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il n'en reste quasiment rien, sinon les quelques témoignages des rescapés, quelques photos aériennes aussi. Il y a un mémorial ensuite qui a été construit après la guerre, et il ne reste que en surface, que des anomalies dans le paysage.
Aujourd'hui, à la frontière donc de l'Ukraine et de la Biélorussie, Sobibor, c'est avant tout un lieu particulièrement isolé. D'ailleurs, l'isolement était au cœur du projet nazi.
Alors oui, mais en fait, moi j'utiliserais plutôt une idée d'éloignement, plutôt que d'isolement, parce que on n'a pas de pattern, comme on dit en anglais, sur l'isolement. Parce que Belzec, par exemple, est en plein milieu d'un village, dans le sud-est, un peu plus bas que Sobibor. Treblinka est à 2 km d'un des plus gros nœuds ferroviaires de l'époque. Bon, évidemment, on comprend pourquoi. Hein. C'est même si c'est dans une forêt, c'est pas très loin de Varsovie. Ceux qui arrivent à s'en échapper arrivent à donner témoignage. Birkenau n'était pas si isolé que ça. Mais il y a un éloignement de l'Europe occidentale. Et puis, il y a effectivement cette zone de forêt qui sert à cacher immédiatement, en fait. Mais l'isolement, ça aurait été vrai si les populations locales n'avaient pas été témoins au quotidien de ce qui s'y est passé.
Bon, Zolantin, ce que les archéologues exhument, c'est le refoulé, celui imposé par les nazis en dissimulant leurs crimes.
Oui, en quelque sorte, il s'agit de faire à Sobibor et dans d'autres camps d'extermination un peu le processus inverse de celui qu'ont fait les nazis. Donc, ils ont tout nivelé. Ils ont commis en quelque sorte un double assassinat, un assassinat réussi et un assassinat complètement raté, celui de la mémoire. Pour paraphraser Pierre Vidal-Naquet. Et fouiller un camp d'extermination, c'est contribuer à cet échec. On ne peut jamais rien cacher aux archéologues.
Vous seriez prêt à fouiller là-bas ?
La question s'est posée à l'époque où il y avait une équipe israélienne. Et j'ai un ami qui m'a demandé si ça m'intéressait. Oui, absolument. Moi, je ne suis jamais allé visiter de camp d'extermination pour des raisons qui m'appartiennent. Mais l'idée d'aller y faire quelque chose, de pratiquer des actes qui sont ceux de mon métier, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, oui, et qui peut-être me ferait du bien.
Dans votre film, Arnaud Soli, nous suivons dans l'épaisse forêt de conifères l'archéologue Mazurek, archéologue polonais vieillissant, un personnage clé pour vous.
Oui, Wojtek porte les stigmates d'ailleurs de sa pratique d'archéologue précaire. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les Français, puisque moi, c'est la première fois où je suis au contact d'un chantier d'archéologie. Mais bon, effectivement, les hanches sont douloureuses. Il boite beaucoup, il boite même le pauvre de plus en plus au cours du film et dans sa vie aussi. Au-delà de l'anecdote, Wojtek Mazurek, il a ce pouvoir que sûrement la plupart des archéologues ont, mais qui m'était inconnu, qui est le pouvoir de révéler et de nous apprendre à lire un paysage. Le lire, c'est le comprendre, mais il nous apprend aussi à le ressentir. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti en repérage, j'ai évidemment déambulé dans cette forêt en essayant d'accueillir ce qu'elle me racontait. Bon, c'est la première fois, c'était absolument sublime. Il y a une lumière horizontale qui est celle des pays de l'Est à la fin du printemps, avec une canopée qui est très haute, en fait, au sommet des pins. Ces pins sont bicolores. Ils ont la moitié du tronc qui est grise et la moitié supérieure qui est rouge vif. Donc, éclairé par cette lumière, il y a quelque chose de très paisible, de très bucolique. Et les sous-bois sont remplis de myrtilles que les gens cueillent. Bon. Et on voit rien. Et quand on y retourne le lendemain avec Wojtek, on voit qu'un petit peu au-dessus de la tête, il y a des barbelés qui sont serrés dans les troncs, comme ça. Il y a des déclivités, des creux qui sont pas normaux. Il y a aussi des orties qui peuvent pousser à des endroits et qui nous indiquent quelque chose, puisque l'ortie pousse dans une terre grasse, si je ne me trompe, en général. Enfin, en tout cas, dans...
Des blés, souvent, voilà. Aussi.
Et sous les pins, c'est un pH acide, donc il n'y a jamais d'ortie. Sauf que quand il y a des restes humains en masse, ça change le pH de cette terre et donc des orties géantes y poussent ensuite 80 ans plus tard.
Ça, vous l'avez appris donc de cet archéologue
polonais. Ça, je l'ai appris de Wojtek. Je veux dire, ça transperce l'estomac quand même.
Boris Valentin, les arbres qui portent encore donc incrustés des fils de fer barbelés, cela évoque quoi pour vous ?
C'est une image qui m'a beaucoup impressionné. le film montre bien ces lieux aussi où la mémoire s'érode. L'archéologie s'intéresse à ces processus, on dit, d'érosion, de taphonomie. Hein. Et là, on le sent dans le film. Alors, c'est une triple érosion. C'est l'érosion des nazis, le nivellement dont on a parlé. C'est aussi donc les récits d'après-guerre qui ont occulté, masqué une certaine réalité. Et puis, la nature elle-même, et ces fils barbelés pris dans les pins, matérialisent ça. J'étais très surpris dans le film, et il y a une tension que je trouve très intéressante, entre le discours des architectes du musée, qui ont un discours, pour moi, très abstrait, hein, et qui disent il faut arracher ce lieu à la nature. Et la leçon d'histoire, disent-ils, doit se dérouler confortablement. Ce qui est d'ailleurs est un peu une ironie de l'histoire quand on sait que le musée est à l'emplacement de l'endroit où on déshabillait, où les gens se déshabillaient pour aller à la chambre à gaz. Et Wojciech Mazurek n'a pas du tout ce point de vue. Il assume à la fois l'érosion et la vérité du lieu. Il dit quelque part, l'espace doit parler par lui-même. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de fondamental dans l'archéologie et dans cette auscultation que les archéologues font des lieux et des espaces.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Ardo Soli.
Effectivement, c'est pas... Je pense pas qu'il y ait un aspect irréconciliable entre une tentative de mémorialisation et le lien que peut nous apporter l'archéologie, la spécificité de ce lien à cette histoire-là. Mais il y a un déficit dans le dialogue. Et l'entreprise qui vise, une entreprise quasi de plasticien en fait, à faire en sorte que la mémoire soit performative, effectivement ça reste très théorique et pose un grand problème dans un lieu comme ça.
On va y revenir de toute manière. Arno Soli, quel est l'objectif, le but des archéologues polonais fouillant ce Bibor?
Alors, l'objectif est double. Il y a un objectif que je qualifierais d'académique, qui est d'établir une topographie d'un centre d'extermination. Il faut savoir qu'on n'a pas d'archives, même si on a le même architecte pour les trois centres, Belzec, Treblinka et Sobibor. Ces archives ont été détruites à Lublin par la hiérarchie de l'opération Reinhardt.
Et puis tout a été effacé sur le terrain. Les tours ont été démontées.
Tout a été détruit suite à la révolte de Treblinka, à la révolte de Sobibor, et Belzec a fermé avant. Alors, les détenus qui ont servi à raser les camps, enfin l'infrastructure des centres, ont circulé entre les trois camps pour être gazés ensuite successivement. Le dernier centre à opérer était Sobibor, qui a gazé les derniers survivants de Treblinka, où ils ont été fusillés plutôt, puisque les chambres à gaz avaient été détruites par eux, en décembre 1943.
Donc il n'y a aucun plan et les archéologues tentent de comprendre les aménagements de ce camp. La découverte du chemin vers les chambres à gaz, ce que l'on appelle la route de l'ascension, est visiblement un moment très fort pour l'archéologue polonais.
Oui.
Un moment même capital.
Mazurek dit, il emploie cette expression, nous avons découvert la moelle épinière, la colonne vertébrale du centre d'extermination. Pour lui, c'est un moment qui est plus important que la découverte des fondations des chambres à gaz. Pourquoi ? Parce que ce chemin de 240 mètres est celui par lequel on passe du statut d'individus qui sont amenés là, que ce soit de Vlodava à 14 km ou de Westerbork en Hollande à plusieurs milliers de kilomètres. On emprunte 240 mètres de ce chemin de sable avec un embranchement pour les femmes pour qu'elles se fassent couper les cheveux. Et puis après, le processus de mise à mort prend place au bout du chemin. Voilà.
Est immédiat.
Immédiat, absolument. C'est ce qui différencie d'un camp, tout simplement. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à Sobibor ne sont pas là pour y rester, ils sont là pour être assassinés.
Immédiatement assassinés. Boris Valentin.
Oui, il y a le mot aussi, le nom qui est glaçant, Himmelfahrtstraße, la voie vers le ciel. Et là, on y reconnaît l'habituel cynisme des nazis. Si mes chiffres sont bons, il y a 250 000 personnes qui ont emprunté ces 240 mètres en 18 mois. Et je suis allé revoir, je crois que c'était à peu près 20 à 30 minutes en moyenne, la durée qui les séparait de la mort. Donc il y a cet aspect symbolique, puissamment symbolique. Mais pas seulement, il y a encore des choses à comprendre dans l'architecture, dans la planification de la mise à mort. Hein, et c'est là où l'archéologie a ses apports encore à la connaissance, où les apports de l'archéologie sont attendus.
Évoquons justement la matérialité des faits, cette archéologie qui justement dégage ces objets entre l'effarant et l'intime. Ce sont des objets qui sont exhumés dans une terre noire composée de cendres qui tranchent donc sur le jaune clair du sable. C'est bien ça ?
Alors, oui, mais ça dépend évidemment des zones du centre dans lesquelles ces objets sont exhumés. Il faut savoir, et j'imagine que ça ne vous est pas étranger, qu'il s'agit essentiellement de décharges qui sont fouillées, puisque les nazis, en fait, jetaient ce qui ne leur était pas utile, après avoir opéré le vol sur les biens de ceux qui arrivaient là. Parmi ces ordures, comme c'était qualifié, on peut trouver des choses que les prisonniers ont cachées. Donc ça sera plutôt en périphérie de la zone du centre. Quand on se rapproche de la zone où les cadavres étaient brûlés et ensuite enfouis soit à l'état de reste, soit à l'état de cendre, on repère les anomalies de la terre, en fait, entre les couches de sable, les couches de gris, comme vous venez de le dire, et la nature des objets qui va être trouvée change. Par exemple, autour de la baraque des coiffeurs, entre guillemets, ils ont trouvé beaucoup de peignes, de barrettes, d'outils de coiffure utilisés par les femmes qui renforcent la certitude, quasi-certitude, que la baraque se trouvait là, au-dessus, en fait, de ces choses qui tombaient à travers le plancher. Quand on va trouver les objets des enfants, les petits jouets, etc., ça, on va le trouver près des fosses, puisque les enfants partaient à la chambre à gaz avec, en fait.
Bon, Isolantin, nous voici devant des sources involontaires, quotidiennes.
Oui, c'est le début d'une citation de Pierre-Jean Trombetta qui définit la source archéologique comme involontaire, quotidienne et sincère. Sincère, on n'en cache rien aux archéologues.
On voit aussi par exemple des plaques d'enfants réalisées par des parents pour ne jamais les perdre.
Oui, c'est ce que les parents hollandais faisaient. Comme les convois séparaient les enfants des parents, en fait, les mamans accrochaient autour du cou de leurs enfants des petites plaques en aluminium où était écrit leur nom et leur adresse. Au cas où, ils venaient à se perdre dans la lointaine Europe de l'Est où ils étaient transférés pour aller travailler. Les archéologues ont retrouvé un certain nombre de ces plaques, de ces médaillons, dans les fosses, puisqu'elles portent encore des traces de brûlures. Donc c'est quelque chose de particulièrement difficile, mais qui a aussi la vertu de singulariser, de remettre des noms sur les victimes, de les sortir de la masse, en fait. C'est-à-dire que quand on sait que Carolina Kohn, qui est née à Cologne dans les années 30, qui a disparu de Cologne par un convoi, on ne sait pas où elle a été. Si les archéologues n'avaient pas trouvé sa petite plaque, où est écrit derrière en hébreu Mazel Tov, donc il ne s'agit pas d'une plaque d'identification, mais d'un petit médaillon qu'on offre aux enfants juifs, on n'aurait pas su qu'elle était passée par le ghetto de Minsk, qu'ensuite elle avait subi une dernière déportation et qu'elle était morte assassinée à Sobibor.
Mentionnons aussi Judith de la Pena, Anna Kapper.
Oui, oui. Très jeunes enfants hollandais, dont les familles entières ont disparu à Sobibor.
Arnaud Soli, la place des Sonderkommando paraît aussi très importante pour les archéologues.
Tu penses que les historiens sont aussi dans cette optique? Le Sonderkommando, c'est le cœur de l'enfer. C'est-à-dire, ce sont les prisonniers qu'on oblige, par pression psychologique, par la violence, etc., à travailler au cœur même du processus d'extermination. Ils opèrent les chambres à gaz, ils opèrent la crémation des corps et leur enfouissement. Ils sont isolés du reste des prisonniers. Ils vivent pas très longtemps, évidemment, parce que c'est très difficile de survivre à ça. Et ce sont les seuls à avoir vu, avec les nazis, qui ont très peu parlé. Donc ce sont les seuls témoins, comme au sens où Primo Levi est qualifié. D'où l'importance de chercher les traces de leurs témoignages et de leur existence.
Boris Valentin, dans d'autres camps d'extermination, les Sonderkommando donc, ont caché des bouteilles avec des messages. C'est un peu ce que, aussi, bien sûr, notre archéologue polonais recherche à Sobibor.
Oui, c'est le cas à Birkenau, notamment. Et il y a, je crois, 3 manuscrits cachés qui ont été exhumés et publiés. Et dans un de ces manuscrits, un des leaders d'ailleurs de la révolte du Sonderkommando de Birkenau dit en quelque sorte, il y en a des centaines d'enfouis, des messages, allez les chercher. C'est incroyable. Il s'adresse en quelque sorte aux archéologues du futur. Et je crois qu'à Sobibor, il y a aussi l'espoir peut-être de trouver des témoignages de cet ordre.
Oui, il y a l'espoir parce que, par exemple, ils ont trouvé une assiette dans la zone où ils suspectent que la cuisine du Sonderkommando était opérée par des femmes. Une assiette avec un message écrit sur un sparadrap collé au dos de l'assiette. Donc, ce qui est reconstruit de ce geste est que s'il y avait un message collé au dos avec un sparadrap, c'était un moyen de faire sortir une information du périmètre du Sonderkommando vers le camp 2 où étaient les prisonniers qui s'occupaient de trier les affaires. Donc il y a cette volonté de témoigner.
Arnaud Soli, nous voyons aussi dans votre film à trois reprises un objet, sorte de crochet en métal, arme, outil, nous n'en savons trop rien.
Alors, un long crochet en métal qui peut nous évoquer plein de choses, effectivement. On peut penser à un crochet de boucher, on peut penser à un outil pour déplacer des rails ou des traverses de chemin de fer, sachant que à l'intérieur du centre d'extermination, il y avait une voie ferrée à voie étroite qui faisait le lien entre la rampe où étaient débarqués les déportés et la zone des fosses communes. Bon, Mazurek émet l'hypothèse, en restant au conditionnel, que cet outil est servi aux Sonderkommando pour sortir les cadavres des chambres à gaz, pour les traîner jusqu'à la zone de crémation, ce qui est une hypothèse qu'il pense tout à fait probable. Seulement, l'objet ne parlera pas plus, ne dira pas plus.
Mais parlera peut-être plus dans le musée.
Et il fera son chemin jusqu'à la vitrine du musée, où il est maintenant assumé comme étant un outil du Sonderkommando.
Boris Valentin, notre archéologue polonais se lamente de ne pouvoir encore fouiller. Tout au contraire, faut-il conserver une large part du camp ?
Moi, j'aurais tendance à dire, en archéologue, qu'il faut quand même en laisser pour les générations futures, parce que c'est peut-être quand même pour elles que la fouille deviendra encore plus instructive. Hein. Je parle de la connaissance, des apports à la connaissance. Il se pose la question aussi de savoir s'il faut exhumer beaucoup d'objets au risque de les banaliser, car ces objets ont une force, on le ressent bien à voir le film, sont des capsules temporelles. Hein. Donc c'est gigantesque ce que contiennent ces objets enfouis. Et moi, je pense, et je le pensais déjà il y a 10 ans, hein, que ces recherches gagneraient, si c'est possible, à être un peu plus coordonnées, peut-être à une échelle internationale, de façon à, parce que c'est vraiment le patrimoine mondial de l'humanité, hein, de façon à définir des priorités, des limites, assurer encore plus de visibilité pour le grand public, car c'est peu connu, malgré ce magnifique film, et ce magnifique film va contribuer à faire connaître. Et puis impliquer aussi peut-être d'autres acteurs possibles, des historiens, des ethnologues, des écrivains, des plasticiens, etc.
Oui, c'est un chemin qui reste à parcourir.
Arnaud Soli, il y a 15 ans, presque aucun Polonais ne connaissait Sobibor. Un des buts est d'introduire l'histoire des Juifs polonais dans cette Pologne.
Oui, on parle souvent, et d'ailleurs c'est dit dans le film, parce que c'est une opinion qui est partagée par un certain nombre de Polonais, qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait vis-à-vis de la communauté juive, des citoyens juifs polonais, en fait, qui représentent dans les 3 centres d'extermination de l'action Reinhardt la majorité, la très grande majorité des victimes, puisque les récits, pour des raisons à la fois d'archives, toute autre sorte de raisons, ont privilégié quand même les victimes étrangères, que ce soit les Hollandais, que ce soit les Autrichiens, que ce soit les Slovaques. Et il y a eu comme une oblitération de la mémoire locale des communautés locales qui enfin, il faut, les chambres à gaz de Sobibor ont été construites avec les briques du ghetto de Vlodava à 10 kilomètres quand même. Ce sont eux qui les ont édifiées et ce sont les premières victimes. La grande ville de Chełm, qui est une ville absolument mythique dans la culture juive polonaise, a vu toute sa communauté gazée, c'est des dizaines de milliers de personnes à Sobibor.
2% donc des Polonais connaissaient il y a peu Sobibor. Qu'en pensent les nouvelles générations, les jeunes fouilleurs qui sont sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils font là? Les ouvriers par exemple?
Alors, ils viennent travailler d'abord. Ensuite, au cours du travail, ils rencontrent Wojtek, ils apprennent. Il y a des récits qui se font, il y a une réparation du savoir historique qu'ils peuvent avoir, dont ils ont pu hériter.
Il y a aussi ceux qui savaient.
Il y a aussi, évidemment, ceux qui savaient, qui réparent peut-être quelque chose par rapport à la génération de leurs parents, effectivement, puisqu'il y avait un savoir local sur Sobibor. Mais bon, Sobibor, Belgique, c'est des centaines de milliers de victimes, mais c'est emblématique du fait qu'on se soit servi d'Auschwitz-Birkenau comme symbole de la Shoah, en fait. Et on a négligé ces endroits périphériques qui ont fait la moitié des victimes.
Il faut peut-être aussi parler du pillage qui était absolument généralisé, surtout dans les années 60, mais jusque dans les années 1987, on pillait largement, je venais faire des trous parce que tout le monde en faisait, c'est ça?
Oui, c'est quelque chose qui était général.
Et à la recherche de l'or, bien sûr.
L'or juif, on appelait ça les moissons d'or, les moissonneurs. Yann Gross a écrit un livre qui a fait un scandale, je pense que c'était à la fin des années 80, début des années 90, sur les moissonneurs d'or à Treblinka. dont on voit que ça leur posait aucun souci puisqu'ils se prenaient en photo en groupe avec leur butin sur les lieux même des excavations sauvages clandestines auxquelles ils procédaient. Belgetz, ça a été la même chose, ça s'est arrêté un peu plus tôt, et à Sobibor, il y a eu effectivement des affaires pénales jusqu'au milieu des années 80. Donc Sobibor, où les autres centres d'extermination n'étaient pas des endroits oubliés de tous. En tout cas, ils n'étaient pas oubliés dans leur voisinage immédiat, qui les voyait comme des ressources. Il y a quelque chose qui pose, évidemment, une question morale très très profonde sur la façon dont on se relie aux événements qui se sont passés là et à ce qui nous en reste. En l'occurrence, des restes humains. Puisqu'il viendrait, j'imagine, à l'idée à personne en Pologne d'aller profaner un cimetière pour aller chercher des dents en or ou des bijoux dans les tombes, alors que c'est quelque chose qui est admis et qui ne posait pas de questions dans les fosses communes de la Shoah.
Boris Valentin, ne posons pas l'archéologie à l'histoire, mais à quoi sert l'archéologie à Sobibor ? Sûrement pas à comprendre la Shoah ?
On a évoqué déjà les quelques apports à la connaissance. Je crois qu'ils sont pour l'instant limités. Ils seront peut-être plus importants dans quelques années. C'est aussi faire connaître. Arnaud Soli a bien insisté aussi sur le rôle pédagogique de ces fouilles auprès des jeunes générations. Moi, j'étais très sensible à ça, à ce passage de relais. Je trouve que c'est rassurant aussi pour nous, la troisième génération. Je pense aussi en France, les fouilles du Schrotthof avec une jeune femme, Juliette Branger, etc., qui prend ça aussi en charge aujourd'hui. Et puis, il y a un rôle très important, je crois, de ces fouilles, qui est un rôle commémoratif, qui est très présent dans l'archéologie du récent, avec sa dimension performative. L'archéologie de 14-18 avait montré déjà la voie. C'est pour ça d'ailleurs que je disais au début que je me vois bien aller fouiller à Sobibor, au titre d'une cérémonie. Et c'est une cérémonie à laquelle on assiste dans le film, avec l'obstination, le calme de Wojciech Maturek. La distanciation aussi, les boîtes, les sachets, tous les gestes minutieux de l'archéologue, distanciation nécessaire vu ce qu'il manipule, mais aussi le soin. Moi, j'ai été très, très impressionné par deux scènes quand il photographie un petit peigne cassé, quand il répare une chaussure de femme.
Une chaussure, bien sûr.
Beaucoup de soins pour chaque objet. Le soin pour réparer autant que possible la violence. Et là-dessus, je rappellerai une citation d'un collègue, Cyril Le Forestier, qui est archéo-anthropologue à l'INRAP, et qui lui parle de ses fouilles de cimetières du Moyen-Âge, et qui dit qu'il s'agit aussi non seulement de les étudier, de les connaître, mais de choyer les morts une seconde fois.
Arnaud Soli, Boris Valentin, merci beaucoup. À voir donc votre film, Arnaud Soli, Sheol, véritable témoignage qui vient d'être couronné par le Grand Prix du documentaire historique 2022 des rendez-vous de l'histoire. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Najar, à la technique Valérie Lavalard, et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.